إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Comme vous l'avez sûrement entendu, l'intitulé de ce cours est At-tamassuk bis-sunnah. Se rattacher à la sunnah. L'attachement à la sunnah. Et il est voulu ici la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Car le terme sunna en arabe veut dire la voie, le chemin, la méthodologie qu'on entreprend, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc le terme sunna en langue arabe, donc il a un sens bien plus général que celui qui est connu chez beaucoup d'entre vous. Et de là, le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam, la méthodologie du prophète, alayhi salatu wassalam, la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, on l'appelle sunnah. Et en général, on l'affilie au prophète, sallallahu alayhi wassalam. On dit sunnatu nabi, sallallahu alayhi wassalam, as-sunnah nabawiyya. Et, islamiquement parlant, lorsqu'on dit as-sunnah, on entend le sens le plus restreint qui est la voie, le chemin, la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous parle qu'il viendront des temps où des gens de la communauté suivront les voies, les chemins des peuples d'avant. Il dit latattabi'unna sanana man qablakum. Vous suivrez les voies, les chemins de ceux d'avant vous. Quelle que soit la voie qu'ils entreprendront, vous les suivrez. Donc il y aura des gens qui s'égareront en suivant la voie des chrétiens et des juifs, comme il est bien stipulé dans ce hadith. Le cours, il est pris d'un commentaire, une explication du grand savant, le Cheikh Ubaid ibn Abdillah ibn Sulayman al-Jabiri, hafidhahullahu ta'ala, parmi les grands savants, les grands cheikhs d'Arabie Saoudite, de la ville du prophète alayhi salatu wassalam de Médine, qui a étudié à Médine, diplômé de l'université islamique de Médine et ancien professeur de l'université islamique de Médine. Le cheikh aujourd'hui est âgé de près de 80 ans. Hafidhahullah ta'ala. Il a fait le commentaire dans un séminaire en Arabie de l'introduction de Sunan ibn Majah rahimahullah, car l'imam ibn Majah rahimahullah, qui est né en l'an 209 de l'Hégire et décédé en l'an 273 de l'Hégire, est un des compilateurs des six livres de hadith célèbres et connus, les Sunan ibn Majah rahimahullah ta'ala. Et il a fait une introduction à son livre dans lequel il clarifie, de part des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tradition et l'ordre et l'obligation de suivre la tradition et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mais le cheikh Ubaid n'a pas fait le commentaire de toute l'introduction. Il a pris pour son explication l'authentique de Sunan Ibn Majah. Et l'authentique de Sunan Ibn Majah et entre dedans l'introduction a été fait, c'est un travail fait par le grand savant, l'imam, le muhaddith, al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahullahu ta'ala, qui a fait l'étude de tous les hadiths qu'on retrouve dans les Sunan d'Abi Daoud, de Tirmidhi, de Nasa'i, d'Ibn Majah, et qui a distingué les hadiths authentiques et bons des hadiths faibles et inventés. Donc, la muqaddima, ce qu'il y a d'authentique dans la muqaddima d'Ibn Majah, rahimahullah, et le livre, c'est sorti en livre, hein, le commentaire de Cheikh Ubaid, il s'appelle « Qat'u al-lujaja bi sharhi sahih al-muqaddima min sunan al-imam Ibn Majah » rahimahullah. طيب التمسك بالسنة l'attachement à la sunna معناه اتباع السنة veut dire le suivi, de suivre la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Tous les jours on est obligé de le répéter, de le répéter, et on ne cessera de le répéter. Combien, si ce n'est tous les musulmans, disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Et combien n'appliquent pas et ne respectent pas, ne sont pas en conformité avec leurs deux attestations. Ils contredisent « La ilaha illallah » et ils contredisent « Muhammad Rasulullah ». Ils contredisent « La ilaha illallah » lorsqu'ils la formulent, ils la prononcent, mais au même moment, ils se permettent de vouer un culte à autre que Allah tabaraka wa ta'ala, ou de donner une quelconque adoration à autre que Allah tabaraka wa ta'ala, et d'ignorer, de ne pas connaître la signification véritable de la ilaha illallah. Vous voyez la gravité, l'importance de la ilaha illallah et la gravité de l'ignorer. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on croit en lui, Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim al-Muttalibi al-Hashimi Al-Quraishi, qui est né à la Mecque et décédé à Médine, qui est devenu prophète à l'âge de 40 ans et qui est décédé à l'âge de 63 ans, 23 ans de prophétie, alayhi salatu wassalam, qu'il est bien le prophète et le messager d'Allah, et qu'il est le sceau et le dernier des prophètes et des messagers. Il n'y a plus aucun prophète après lui. De par son envoi, il a mis un terme au message et à la prophétie. Il n'y a plus de révélation après le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et il a reçu le dernier des livres sacrés, Al-Qur'an, qui est la parole d'Allah incréée. Elle émane de lui et retournera à lui, subhanahu wa ta'ala, vers la fin des temps. Ce prophète, alayhi salatu wassalam, on doit croire en son message et à sa prophétie. On croit en tout ce qu'il nous dit, alayhi salatu wassalam. Toutes les informations données par le prophète, alayhi salatu wassalam, n'est que vérité. Et c'est une révélation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on se doit de lui obéir, de l'écouter et de lui obéir. C'est une obligation, interdiction formelle et totale de lui désobéir. Et on se doit de s'exécuter lorsqu'il nous le demande, de s'abstenir lorsqu'il nous interdit une chose. Donc, de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas qu'une parole qui sort de la bouche, mais elle implique une exécution de la part de la personne et de l'adepte du musulman qui s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons radiallahu anhum étaient le meilleur exemple dans l'écoute, l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam, et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Le suivi de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam n'est pas pour une période de ta vie, mais plutôt toute ta vie, toutes les étapes et toutes les périodes de ta vie. Tu te dois d'obéir, d'écouter et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. certaines personnes, qu'Allah nous guide tous. Et on se doit de demander le raffermissement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le temps, le prophète alayhi salatu wa salam, qui est le meilleur des hommes, il disait, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Il demandait le raffermissement. C'est auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah, il guide qui il veut et les gars qui il veut. Et c'est Allah qui raffermit, subhanahu wa ta'ala. Nous, on fait les causes, mais on implore Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous raffermir et de nous garder dans le droit chemin jusqu'à qu'on quitte ce monde et qu'on rejoigne Allah, tabaraka wa ta'ala, et il est satisfait de nous, il nous a agréés, il a accepté nos œuvres, et il nous fait entrer dans son paradis, subhanahu wa ta'ala, et rien n'est impossible à Allah. Voilà comment doit vivre le musulman. Ce n'est pas je suis la sunna, je m'implique dans la sunna, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant une période de ma vie, et une fois que j'ai acquis ce que je voulais, ou mon objectif, je la quitte pour un autre chemin. Combien de prêcheurs on les a vus apparaître comme étant des gens de la sunna, prétendre être des gens de la sunna, et un beau jour, ils apparaissent avec une autre apparence et avec un autre discours. Subhanallah. Ils ont eu le public qu'il fallait, ils ont eu la célébrité qu'ils voulaient, et puis maintenant ils se sont dit, le jour est venu de montrer mon vrai visage et ma réalité et ce en quoi vraiment je crois. Et Allah seul connaît leur nombre de ces gens. D'autres parmi les simples gens qui écoutent beaucoup ce qui se passe, s'adonnent au suivi de l'actualité. Et trop s'adonner à ces choses-là fait mal au cœur. Ça rend malade. Et la plupart des gens ne sont pas capables de bien gérer les informations. Tout va bien, il vient à la mosquée joyeux, il est avec une apparence islamique convenable, il y a des problèmes, l'islam est montré du doigt, il change d'apparence et il ne fréquente plus les musulmans, il s'éloigne de la mosquée. Et Allah seul sait le nombre de ces gens-là. Donc, il faut faire attention. Le raffermissement, il faut le demander à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le suivi de la sunna du prophète, sallam, c'est toute ta vie. Il y a même des gens qui disent, j'étais comme toi dans ma jeunesse. Moi aussi, c'est un passage. Ils croient que suivre la sunna, c'est un passage. C'est une crise d'adolescence. A'oudhu billah. Leur façon de parler, c'est comme s'ils disaient, tu es en train de faire une crise, c'est pas grave, ça passera. Et plus tard, tu deviendras comme nous. Nous qui n'avons aucune apparence et aucune implication dans la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, ce sont des paroles qui sont fausses. Et voyez les véritables ulama, éducateurs, qui sont ancrés dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant tout leur parcours, toute leur vie, c'est les mêmes. Subhanallah. Jusqu'à quitter ce monde. C'est les mêmes personnes. Ils ne changent pas. Donc, il faut implorer Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous raffermir. Wa l'iqtida bi athari an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. قولا وعملا واعتقادا. Donc, et c'est un suivi des traces du prophète alayhi salatu wa sallam. Al-athar, c'est les traces, comme les traces laissées par les pattes d'animaux. Hein, celui qui connaît, il recherche sa bête, il suit les traces, les pas. Et il sait si les pas, ils sont les traces, elles sont fraîches ou pas. Il arrive même, il y a des connaisseurs qui peuvent dire depuis quand elles datent ces traces. Subhanallah. Eh bien, al-athar, on suit les traces du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On les cherche et on les suit. Là où on les trouve, on les suit. C'est dedans qu'il y a la réussite et la félicité. Que ce soit des paroles, des actes ou du domaine de la croyance et du dogme. On prend tout ce qui nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le dogme, dans les paroles et dans les actes. Wa huwa amrun wajib. C'est un sujet qui est obligatoire. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas du domaine de ses meilleurs, ses plus parfaits, il convient mieux. Non, c'est une obligation. On répète aussi que la sunna, on en parle dans le sens original, qui est la voie à suivre, le chemin à suivre, qui est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car plus tard, le terme sunna, on lui donnera un certain sens dans le domaine de la jurisprudence, du fiqh, qui est al-mustahab, un acte qui est recommandé, conseillé. Dans les chapitres de fiqh, dans les livres de fiqh, lorsqu'ils emploient le mot sunna, ils entendent par là que ce n'est pas obligatoire. C'est mieux de le faire, c'est recommandé. Et beaucoup ont retenu du terme sunna, surtout chez les anciens, ce sens-là. D'où l'importance, lorsqu'on parle, qu'on sache la signification des mots qu'on emploie. Donc, parfois les gens, ils ont gardé en tête ou à leur esprit un sens, mais lorsque toi tu leur parles, tu veux autre chose. Donc ici, il n'est pas question du sens du terme sunna qu'on a dans le fiqh. Ici, la sunna, on veut par là la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et entre dedans. Les ordres obligatoires, conseillés, le permis, les déconseillés, les interdits, tout cela entre dans la tradition et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Wa la yasughu li muslimin an ya'dila an dhalika qaida'un mula. Il n'est pas permis à un musulman de s'en éloigner, d'en dévier, même pas de la taille ou de la distance d'une phalange. Une phalange, hein, le tiers d'un doigt. D'accord ? Une phalange. Même pas cette distance-là. Tu n'as pas le droit. Lorsque la sunna elle t'est parvenue, tu te dois de t'y plier et de t'exécuter. Tu n'as pas le droit d'en dévier de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. وَبِهَذَا أَوْصَى أَئِمَّةُ السَّلَفِ. Voilà la recommandation et l'ordre donné par les imams des salafs, les imams des pieux prédécesseurs. As-salaf est un mot arabe qui veut dire prédécesseur. Celui qui est venu avant toi, qui t'a précédé. Pour toi, il est salaf. Et on a appelé les premières générations des musulmans, les générations les plus proches, chronologiquement, historiquement, du prophète alayhi salatu wassalam, puisqu'ils sont venus avant tous les autres musulmans, on les a appelés as-salaf. Les sahaba, qui, radiallahu anhu, qui ont vécu avec le prophète sallam, at-tabi'in, at-ba' at-tabi'in, ces trois générations vantées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait les éloges, et qui sont les meilleures générations, on les appelle as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs. N'entrons pas dedans ceux qui ont vécu à ces époques-là et qui ne méritent pas cette appellation. Parmi les polythéistes, les mécréants, qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans, et les innovateurs qui ont dévié de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si ils ont vécu à cette époque-là. Donc, toutes ces honorables générations, personnes qui ont vécu et qui ont représenté le véritable islam, pour nous, ce sont des prédécesseurs et d'honorables et de vertueux prédécesseurs. Et tous ceux qui se reconnaissent en eux, qui s'affilient à eux, et qui veulent vivre l'islam authentiquement comme eux l'ont vécu, et ils sont affiliés au salaf, et on appelle celui qui est affilié salafi. On rajoute le ya, c'est le ya d'appartenance, le ya d'affiliation. Voilà. Ce n'est pas le suivi d'une personne bien précise, c'est le prophète et toutes ces générations qui ont vécu véritablement l'islam comme il fut enseigné par le prophète alayhi salatu wassalam, loin de toute forme d'hérésie ou d'innovation. فمن تلكم الوصايا قول الشافعي رحمه الله. Parmi ces recommandations, car le but n'est pas d'étaler tout ce qui a été dit à ce sujet, on ne le pourrait, un seul cours ne le pourrait pas. Mais à titre d'exemple, parmi ces recommandations, il y a la parole de Shafi'i, l'imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Qurayshi, Shafi'i, rahimahullah ta'ala, un des quatre imams connus, à qui on attribue l'une des quatre écoles juridiques, qui est né en l'an 150 de l'Hégire et qui est mort en l'an 204 de l'Hégire. Il est né à Gaza, en Palestine. Il a grandi à la Mecque et il a fini sa vie et il est décédé au Caire. Rahimahullah ta'ala, il est enterré en Égypte au Caire. Rahimahullah ta'ala. Mais à son époque, la ville du Caire n'existait pas. Ça s'appelait Al-Fustat. Plus tard, la ville, ce sera une plus grande ville et elle s'appellera Al-Qahira, le Caire. Mais à son époque, elle n'avait pas ce nom-là. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, est qui dans sa lignée, il rejoint le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un certain ancêtre, il se rejoint, c'est un Quraishi d'origine, il rejoint le prophète, alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah ? Ajma' al-Muslimoun. على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. Il dit عليه رحمة الله. Les musulmans sont unanimes. Donc il y a consensus, unanimité chez les savants de l'islam, que lorsque t'es apparu, a été clarifié une tradition du prophète alayhi salatu wassalam, il n'est pas permis aux musulmans de la délaisser pour la parole de quiconque. Quelle que soit la personne, élevé soit-il, reconnu soit-il, célèbre soit-il, sa parole ne passera jamais devant celle du prophète alayhi salatu wassalam. Et en cela, il n'y a aucun rabaissement ni dénigrement de cette personne. Et cette personne, si elle est honorable, jamais elle n'aurait accepté qu'on mette sa parole au même stade qu'à celle du prophète alayhi salam, que dire au-dessus de celle du prophète alayhi salatu wassalam. Les gens te diront, jamais on fera cela. Mais dans la pratique, ils le font. Dans la pratique, ils le font. Même s'ils ne le reconnaissent pas, mais les actes en disent plus que les paroles. Parfois, et ça arrive, les gens ont du mal à accepter un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non pas parce qu'ils doutent de son authenticité. Ce n'est même pas la question qu'ils se posent. Seulement, le problème, c'est que cette parole, elle contredit la parole de notre imam. Cette parole, elle contredit la parole de notre shir. Cette parole, elle contredit la parole d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Combien de fois ça arrive? Puis, ils vont chercher des excuses. Alors, ils vont te dire, le savant, l'imam, un tel ou un tel, il a été au courant de cette parole, mais il ne l'a pas pris parce que pour lui, ce hadith n'était pas bon. Ce n'est pas possible que ce hadith soit bon, sinon il l'aurait su. Ce sont parmi les phrases qu'on entend pour, soi-disant, ne pas rejeter la parole d'un tel ou d'un tel. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Et que l'amour qui est donné à certaines personnes, il est bien plus grand que l'amour qui est donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas des chants qu'on fait du matin au soir, des danses qu'on fait du matin au soir, ça c'est faux. Les soufis, ils croient en ça. Ils croient entre eux, ils prétendent, nous on a véritablement l'amour du prophète. Les gens, ils n'aiment pas beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que l'amour du prophète, on le retrouve dans quoi? Dans la danse et le chant. A'oudhu billah. Si tu danses pas et tu chantes pas, c'est que tu n'aimes pas le prophète. A'oudhu billah. Et donc, c'est pour ça qu'ils cherchent que des moments où il y a des fêtes pour pouvoir soi-disant dire on démontre par là notre amour. Ton amour du prophète, sallam, c'est tous les jours que tu le montres. En priant sur lui, comme il nous l'a enseigné. Et en s'exécutant à ce qu'il nous a demandé, alayhi salatu wa salam, en apprenant sa biographie, et en appliquant, et en essayant de le ressembler, et de faire les adorations comme lui, il les a fait, alayhi salatu wa salam. Les gens prient comme ils veulent, s'ils prient, jeûnent comme ils veulent, font le pèlerinage comme ils veulent. Ils se demandent même pas, est-ce que c'est comme ça que l'a pratiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils disent, c'est nous qui aimons le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahul Musta'an. De suivre un madhhab n'est pas un problème en soi, c'est comme suivre un savant. Les imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed et tous les autres imams qui ont vécu avant eux, leurs contemporains ou venus après eux, d'honorables imams de l'islam, certains plus célèbres que d'autres, certains plus savants que d'autres, mais ils sont tous vertueux et honorables. Et ce sont des personnes vers qui on revient pour les questions religieuses, car Allah nous ordonne de revenir aux savants. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Mais ce n'est pas le prophète. Mais leurs opinions et leurs paroles, on doit les mettre sur la balance du livre et de la sunna. Ce qui est en conformité, on le prend. Ce qui n'est pas en conformité et qui contredit le texte, on ne peut pas le prendre. Et aucun d'entre eux n'a demandé de le suivre dans le faux, mais de le suivre lorsqu'il est en conformité avec le Coran et la sunna. Et ils se sont tous désavoués, innocentés de quiconque suivrait leurs paroles alors qu'elle contredit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui viennent après, qui font apparaître l'amour de Malik, l'amour de Shafi'i, l'amour d'Ibn Hanbal, l'amour d'Abu Hanifa, mais qui font n'importe quoi dans le suivi, les imams sont innocents d'eux et se désavouent d'eux. De même que Ali radiyallahu anhu, Al-Abbas radiyallahu anhu, Fatima radiyallahu anha, Al-Hassan al-Hussein radiyallahu anhuma sont innocents de ce que font les chiites, même si du matin au soir ils disent nous on fait tout pour la famille du prophète et nous c'est nous qui aimons le plus la famille du prophète. Ils ont menti, de même que les chrétiens font croire qu'ils aiment plus Issa que les musulmans. C'est nous qui aimons le plus Issa que les chrétiens. Les chrétiens ont dévié de la voie de Issa, alayhi salam. Et les juifs ont dévié de la voie de Moussa, alayhi salam. On est bien plus proche de Moussa et Issa, alayhi salam, que les chrétiens et les juifs. Mais laissez les gens prétendre ce qu'ils veulent. Les prétentions, ce sont que des propos, des paroles. Mais c'est à l'examen qu'on voit réellement. Les juifs à Médine ont dit, nous on aime Allah. On a l'amour d'Allah. Allah a révélé le Coran, le verset coranique. C'est un examen, une épreuve. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis à ces gens, à ces juifs qui prétendent l'amour d'Allah, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous êtes vraiment véridique dans vos paroles, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés, car il est le pardonneur et le miséricordieux. وهذا متفق عليه بين أئمة العلم والإيمان والهدى. Il y a consensus en cela, qu'on n'a pas le droit, interdiction totale, de dévier de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle nous est apparue, là-dessus, il y a consensus, unanimité chez les imams de la science, de la foi et de la guidée. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا رواه ابن ماجه وصححه الألباني. Donc, d'après ce grand compagnon, Abu Huraira, radiallahu anhu, qui a connu, côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 4 ans, car il est entré en islam en l'an 7 de l'Hégire. En l'an 7 de l'Hégire. Allez, radiallahu anhu. Donc pendant près de 4 ans. Mais il a tellement collé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est tellement resté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant que beaucoup de compagnons s'adonnaient aux affaires de leur vie, au commerce et autres, et que lui était un homme pauvre. Matériellement, il était pauvre. Financièrement, il était pauvre. Et il faisait partie d'un soufa. C'était un endroit dans la mosquée, dans la salle de prière, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était réservé à ces personnes qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de proches. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait beaucoup de temps avec eux. Et Abu Huraira radiallahu anhu, plus précisément. Et il est parmi ceux, si ce n'est celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam. Et il s'appelait Abdurrahman. Abdurrahman ibn Sakhr, radiallahu anhu. Dans ce qui est le plus probable et authentique, parce qu'il y a beaucoup d'opinions là-dessus sur sa véritable identité, son véritable nom. Tayyib. Abu Hurayra, radiallahu anhu, dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ce que je vous ordonne, prenez-le, appliquez-le. Et ce que je vous interdis, alors abstenez-vous. Alors abstenez-vous. Donc, comme je vous l'avais dit déjà dès le début, que les textes sont pris de la Muqaddimah d'Ibn Majah. Donc, c'est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani, rahimallah, Al-Jami'a. Comme Allah nous dit dans le Coran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et ce que le messager, dans le sens du verset, et ce que le messager vous donne, vous ordonne, prenez-le, appliquez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est douloureux dans son châtiment. وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله رواه ابن ماجه وصححه الألباني. Et toujours d'après Abu Huraira رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui m'obéit n'a fait qu'obéir à Allah, et celui qui me désobéit n'a fait que désobéir à Allah. L'obéissance au prophète, c'est une obéissance à Allah. Et la désobéissance au prophète, c'est une désobéissance à Allah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'obéir et d'écouter aux gouvernants, donc les musulmans, ils vivent selon des règles, des principes, des lois, donc il y a une autorité, et les citoyens du pays se doivent d'écouter et d'obéir pour le bien général. En obéissant au gouverneur, tu ne fais qu'obéir au prophète, et tu ne fais qu'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. L'obéissance que tu lui donnes, c'est parce qu'Allah te l'a ordonné. Allah t'a ordonné de lui obéir. Allah ne te demande de ne pas obéir que lorsqu'il y a sa désobéissance. Tant que ce qui t'est demandé n'est pas une désobéissance à Allah, c'est un devoir pour toi d'obéir, une obligation. Une obligation. Ça, c'est une éducation. Donc, beaucoup de gens croient que les musulmans ou l'islam appellent à être des... Comment on appellerait ? Des anarchistes. Ils pensent à ça. Et souvent, les gens qui sont anarchistes, les gens qui ne veulent pas de loi, ils veulent rien du tout, chacun vit comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, Personne n'est en droit de juger quiconque, ni de dire quoi que ce soit sur quiconque. Et voilà, chacun vit comme il veut, comme bon lui semble. Hein? C'est la loi de la jungle, comme on dit. Et souvent, chez des gens qui ont cette façon de penser, ils pensent que l'islam appelle à cela. C'est faux. Jamais l'islam a appelé à cela. Au contraire, l'islam nous apprend que de vivre sous les ordres d'un dictateur féroce, dur, un tyran, 70 ans, c'est mieux qu'une journée sans gouvernant. C'est mieux qu'une journée sans gouvernant. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il donne sa recommandation dans le hadith de l'Irbad ibn Sa'di radhiyallahu anhu, il parle de l'écoute et de l'obéissance au gouvernant. Quand est-ce qu'il dit wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idatan baligha wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun hatta dhananna annaha maw'idatu muwaddi' fa qulna ya Rasulullah awsina. Al-Irbad ibn Sari radiallahu anhu dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une exhortation qui a fait trembler, frémir les cœurs et pleurer les yeux. Alors nous avons dit au messager d'Allah, ceci ressemble à une exhortation d'adieu. Recommande-nous. Qu'est-ce que tu nous ordonnes? Si tu viens à nous quitter, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, la personne, et que dire, c'est qui? C'est le prophète en personne. Alayhi salatu wassalam. Il va donner les points les plus essentiels à la communauté avant de les quitter. Et il leur dit, je vous recommande la crainte d'Allah, la piété d'Allah. Celui qui craint Allah, tu es à l'abri de son mal. Celui qui craint Allah, c'est la meilleure des personnes. Il ne fera que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fera preuve de piété en accomplissant les ordres, les obligations, en s'éloignant des interdits et en cheminant vers Allah par les actes surrogatoires et en s'éloignant et en s'abstenant des actes qui sont déconseillés. Et d'écouter et d'obéir, même s'il arrive que c'est un esclave abyssin qui devient votre chef, votre gouvernant. Voilà. C'est lui votre gouvernant, c'est lui qui a été désigné, vous devez de l'écouter et de lui obéir. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Car ceux qui vivront parmi vous verront devant eux beaucoup de divergences et de discordes. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de divergences et de discordes. Ça, c'est la maladie. C'est le problème. C'est le mal qui va arriver. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Puis il nous donne le remède. La clé pour sortir de ce problème. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Alors, cramponnez-vous, attachez-vous à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés qui viennent après moi. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Mordez-la bien avec vos molaires. Ne laissez personne vous l'arracher, vous l'enlever. On viendra, on essaiera, d'une manière ou d'une autre. Mordez-y à pleines dents. Ne laissez personne vous l'enlever. Cet attachement, il s'est suivi de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Addu alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Et attention, il y a toute nouveauté en religion. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Car toute nouveauté en religion, dans le domaine cultuel, dans le domaine religieux, pas dans le domaine mondain, ici il est question des sujets religieux, pas les domaines mondains. Les domaines mondains, tu peux innover dans la cuisine, dans la fabrication de voitures, dans l'architecture, dans les domaines mondains, tant qu'il n'y a pas un interdit, tu peux innover et tu dois innover. Pas de problème. Mais dans le domaine religieux, stop. Tu ne fais que ce qui t'est demandé. Tu ne rajoutes rien, ni tu n'enlèves rien. La religion, elle est parfaite, elle est complète. Et attention, et à toute nouveauté en religion. Car toute nouveauté en religion est une innovation. Toute innovation est un égarement, et tout égarement mène dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء قال أبو الدرداء رضي الله عنه صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. D'après ce compagnon Abu Darda radiallahu anhu, que le prophète sallam a dit, et je jure par Allah que je vous ai laissé sur un chemin clair. Sa nuit et son jour sont semblables. C'est-à-dire qu'il est plein de clarté, que ce soit de nuit ou de jour. C'est un chemin qui est toujours clair. À tout moment, c'est un chemin qui est clair. Et Abu Darda, radiallahu anhu, de rajouter, qu'est-ce qu'il dit? Je jure par Allah que le messager d'Allah a dit vrai. Il nous a laissé sur un chemin clair, son jour et sa nuit sont semblables. Rapporté par Ibn Majah et rendu Hassan bon par l'Albani. Ici, ce qui est voulu, c'est la sunna. La tradition du prophète, elle est claire. De jour comme de nuit. Et dans un autre hadith, il est dit, le prophète, لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. Je vous ai laissé sur un chemin clair, de jour comme de nuit. Ne s'en égare après moi qu'une personne vouée à la perdition. Tu dévies de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la perdition. Il n'y a que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la guidée, qui est le droit chemin. Tu dévies, tu es dans la déviation et l'éloignement. والمراد به السنة شبهها بالرقعة البيضاء. Donc le prophète sallam a fait ressembler sa voie, sa tradition, son chemin, ce sur quoi il était, alayhi salatu wassalam, avec un endroit qui est clair. Hein, ou alors une partie d'une terre qui est blanche, bien claire, qui apparaît. وهذا دليل على أن السنة واضحة يسيرة. Et ceci est une preuve que la sunna, elle est claire et elle est simple. Elle est simple. Il n'y a pas de difficulté dans la sunna. Il n'y a pas de difficulté dans la sunna. La difficulté, elle est dans la personne qui trouve des difficultés. C'est lui qui a des problèmes. C'est pas la sunna qui a des problèmes. C'est lui. C'est son ignorance, son incompréhension, et ainsi de suite. C'est son problème à lui. Et il doit chercher réponse à ses problèmes. Mais la sunna en elle-même, elle n'a aucun problème. L'islam n'a pas de problème. Chez certains adeptes, oui, peut-être. C'est eux qui ont des problèmes. Il y en a qui viennent te dire, « Oh, c'est trop dur. Il y a trop de... » Non, non. C'est trop dur, c'est ta pratique à toi, ta façon de pratiquer à toi, ta compréhension à toi. C'est là-dedans que tu devrais plutôt chercher d'où il vient le problème. L'islam, il n'y a aucun problème dedans. L'islam, c'est simple, tout est bien clair dedans. C'est dans les sectes qu'il y a des problèmes, pas dans l'islam en lui-même, pas dans la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Comme les gens qui sont trop durs, trop secs. Le problème, il est en eux. L'islam n'a jamais appelé à cela. Même si eux ont compris de l'islam ça, leur compréhension, elle est fausse, elle est erronée. Il y a des fois, même certains qui l'ont déjà vécu, ils ont cru que l'islam appelait une chose, puis à la fin, ils ont compris que c'était pas ça, que c'était une erreur. Comme le fait de croire qu'il faut avoir un visage fermé, pas de sourire. Il y en a, ils pensent que le musulman, c'est comme ça qu'il doit être. Il n'y a pas de sourire, nous on est sérieux. Comme si le sourire ne voulait pas dire sérieux. Subhanallah. C'est comme ça qu'ils l'ont compris. Alors que dans l'islam, tu apprends quoi? Que le sourire à lui seul est une aumône. Subhanallah. Il n'y a pas plus simple. Ah, j'ai pas un sou à donner. Tu n'as pas demandé de sou, on te demande un sourire. Subhanallah. C'est simple. Mais même ça, il y en a, ils n'arriveront pas. Ça coûte trop cher. Ça demande beaucoup de faire un sourire. Puis, parfois, Shaitan, il a les gens, en leur faisant croire, ils vont quoi? Lire des textes où il ne faut pas trop rire. Ceux qui rigolent de trop, ils ont un problème dans le cœur, ça endurcit le cœur. C'est toujours les exagérations. C'est comme si quelqu'un ne mangeait plus. Et puis, il te ramène des textes dans lesquels il ne faut pas trop manger. Il ne faut pas exagérer dans la nourriture et dans la boisson. Et de là, il se prive complètement de nourriture. Subhanallah. Non! On ne le fera pas, subhanallah. Donc l'exagération, elle est rejetée en tout, mais le minimum, il est là, subhanallah. Ou de croire, par exemple, que tout le monde est perdu. Il y en a qui ont cette idéologie-là. En pensant que il sauve sa peau parce que tout le monde est dans l'égarement. Tout le monde est dans la perdition. Et quand il dit tout le monde, il s'oublie. Il ne sait pas que lui-ci, il est dedans. Et qu'en disant ce genre de propos, qu'en réalité, c'est lui le pire des gens. Et le plus égaré des gens. Et le plus perdu des gens. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum » Et dans une lecture, فَهُوَ أَهْلَكَهُمْ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ C'est-à-dire que c'est lui le plus perdu d'entre eux. Celui qui dit que tous les gens sont perdus, c'est lui le plus perdu d'entre eux. Et أَهْلَكَهُمْ, c'est lui la cause de leur perdition. C'est lui qui les a fait perdre. Vivre avec la communauté ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Dans la vie de ce bas monde, il y a des problèmes et il y a des soucis. Subhanallah. Mais l'islam nous apprend à vivre avec et comment les gérer. Mais le mieux, c'est de vivre avec sa communauté, sauf vraiment cas d'exception. Lorsque c'est impossible, il n'est plus possible de vivre parce que ce sont des moments de troubles énormes et ainsi de suite. Mais ce n'est pas pour des problèmes de voisinage, des problèmes entre amis, des problèmes conflictuels qu'il y a même dans la famille, que ça y est, on coupe toute relation et tous les liens. Non. Ça, ce n'est pas une solution islamique. C'est faux. Parfois, certains se croient même intelligents. Moi, ma femme, elle côtoie aucune sœur. Elle côtoie qui, ta femme? Elle côtoie aucune sœur. Elle côtoie qui? Et il dit, c'est pour son bien que je fais ça. Mais d'où tu tiens cette réponse? Cette réponse, cette solution que tu as, elle vient de qui? Elle ne vient que de toi ou de tes semblables. C'est tout. Jamais aucun savant de l'islam n'a enseigné ça. Ça n'existe pas. Les gens, des fois, tellement qu'ils sont perdus, c'est eux-mêmes qui cherchent des solutions. Alors quand ils se rencontrent et c'est les mêmes, quel désastre. Subhanallah. Ce n'est pas islamique. Il y a des façons de parler qui ne sont pas convenables. Il faut qu'on se corrige. Des frères qui disent, les sœurs de France, excuse-moi, si les sœurs de France, elles ont un problème, donc les frères de France ont un problème. Puisque c'est quoi le problème des sœurs? Parce qu'elles sont de France. Et les frères, leur problème aussi parce qu'ils sont de France. Donc, c'est des deux côtés, subhanallah. Faut arrêter. Il y a du bien et du mal. Mais si on se focalise que sur le mal, c'est clair qu'on n'ira pas trop loin. Il y a des personnes, et j'en parle, c'est pour que, inchallah, on se réveille un peu. Ils sont défaitistes, pessimistes. Ils voient tout en noir, sombre. Ça y est, le ciel, il va nous tomber dessus, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est foutu. Ils vivent comme ça. Et en plus de cela, non seulement ils sont comme ça, mais ils cherchent les informations qui les réconfortent. Subhanallah. Et ils sont à l'affût que des faits divers. Que des faits divers. C'est normal. Il y a rien, il n'est que dans ce monde-là. Ça, ce n'est pas bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un d'optimiste. Il voyait les choses en bien. Regardez les choses positivement. Arrêtez de vous focaliser sur seulement les côtés sombres ou négatifs. Il y a du positif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit pour un époux envers son épouse. Le croyant, il ne fait pas de mal à son épouse. S'il déteste en elle un comportement, il verra en elle d'autres bons comportements. Voilà le croyant, comment il se comporte. C'est pas possible de dire que quelqu'un, il n'y a que du mal en lui. Ou de retenir que ce qui est mal chez lui. Comment voulez-vous avancer? Donc, l'humain de base, il est sociable. Et on vit en société. Bien sûr, ça ne veut pas dire de céder sur ses principes, sur les règles de sa religion. Non. Tu gardes tes principes, tu appliques ta religion, mais ta religion ne t'appelle pas à ce genre de comportement. Et que dire lorsque des convertis viennent à nous et qu'on leur apprend mal l'islam? Combien de convertis que je connais et que vous connaissez, il rentre dans l'islam, il a mis une croix sur sa famille. Il ne veut plus jamais entendre parler de sa famille. Et quand tu lui dis, non, mes parents, c'est des koufars. Ma famille, mais on le sait que c'est des koufars. On le sait que tu es converti. On le sait. Tu nous apprends rien en disant ça. Mais qu'est-ce que tu entends par ta parole? C'est koufar veut dire, tu n'as plus de lien avec eux. Ton père n'est plus ton père. Ta maman n'est plus ta maman. Tes frères et sœurs ne sont plus tes frères et sœurs. Tes oncles et tes tantes ne sont plus tes oncles, ne sont plus tes tantes. Tes grands-parents ne sont plus tes grands-parents. Mais où est-ce que tu as appris ça? Subhanallah. C'est pas l'islam qui t'a enseigné ça. C'est toi-même qui t'es fait croire. Et puis si tu es mal entouré, on t'a mal expliqué l'islam, quel désastre. Même sur ça, il faut que les gens apprennent comment on doit se comporter, qui sont mes proches parents, quel est mon devoir envers eux, quels sont leurs droits. Subhanallah. Le voisinage. C'est pas parce que le voisin il est mécréant ou c'est quelqu'un que je ne connais pas que je me permets d'être nuisible envers lui ou de lui faire un quelconque mal. C'est interdit en islam. Je dois être un bon voisin. Quand je pars, je déménage, j'ai laissé de bonnes traces derrière moi. Les gens veulent un autre musulman comme voisin. Subhanallah. Parce que j'ai montré le bon exemple. J'ai montré le bon exemple. Que dire quand c'est une mosquée? Voisin des pavillons et des quartiers, c'est une mosquée. Les gens pensent que c'est un lieu de culte, un lieu d'adoration. Les gens entrent dedans, ils en ressortent meilleurs. Ils ont entendu le bon prêche, la bonne parole, et la mosquée devient un problème pour les voisins. C'est pas normal. Les voitures mal stationnées, des fidèles qui parlent mal aux voisins de la mosquée, et ainsi de suite. Et il se trouve des excuses. Je suis en retard, j'ai pas le temps, la Jumu'ah va se terminer. Et ainsi... C'est pas des excuses. Tu es en retard, c'est ton problème à toi. Tu serais sorti plus tôt, tu n'aurais pas été en retard. Ça, c'est ton problème à toi. Il n'en découle pas de ton problème une nuisance à quiconque. Subhanallah. Que dire si vous êtes la cause de la fermeture de la mosquée? Il y a des mosquées qui ont fermé à cause de quoi? Des pétitions des voisins. Déjà, rien que ici en France, souvent les mosquées, c'est pas ce que les voisins veulent. Dès de base. Alors, rajoutez à cela des nuisances, un mauvais comportement. Puis c'est qui qu'on contacte? C'est les responsables de la mosquée. Toi, tu as fait ton problème, t'es parti. Voilà, c'est fini pour toi. Mais c'est qui rend des comptes? C'est les responsables de la mosquée. Ce que tu ne veux pas qu'on te fait, ne le fais pas aux autres. Sois bon, montre un bon exemple, une bonne image. La da'wah, c'est pas que des paroles, c'est des actes. Les gens, ils te regardent. Tu es attirant ou tu n'es pas attirant? Subhanallah. Et combien de musulmans, de par leur comportement, ont attiré des populations entières qui ont embrassé l'islam? Parce qu'ils ont voulu ressembler à ces gens. Et ils ont reconnu en ces gens le bon comportement. Le comportement fait partie des règles et des lois de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala, a dit de lui, « Wa innaka la'ala khuluqin azim. » Et tu es certes doté d'un noble caractère, d'un bon comportement. Allah, il dit ça sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est notre prophète et c'est un exemple pour nous. Et on le prend exemple dans tout et même dans le comportement. Alayhi salatu wa salam. Tayyib. تكفل لمتبعها سعادة الدنيا والآخرة. Donc, hein, il s'est pris garant que celui qui suivra ce chemin, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gagnera le bonheur dans la vie d'ici-bas et le bonheur dans l'au-delà. Hein, vous connaissez le hadith, يوم القيامة, il y a le jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam attend sa communauté devant son bassin. Et sa communauté arrive, les fidèles arrivent pour boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir bu, plus jamais ils ne goûteront à la soif. Plus jamais ils ne seront assoiffés. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens. Et rien n'est impossible à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit des gens arriver et les anges se mettre sur le chemin. Il les empêche de continuer et d'aller vers le prophète sallam pour les diriger vers le feu de l'enfer. Le prophète sallam dira Ummati, Ummati, ma communauté, ma communauté. Ils diront, les anges, ils diront La tadri mada ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové, inventé après toi, ce qu'ils ont fait après toi comme contradiction. Et là, le prophète, en entendant cela, il dira « Suhqan, suhqan, loin de moi, éloignez-les. » Vous comprenez? Donc, dans le suivi, l'attachement à la sunna, on y gagne le bonheur. Dans la vie ici-bas et dans la vie de l'au-delà. « Wa annahu la yaziru anha illa halik. » Ne s'en égare de cette voie, de ce chemin, qu'une personne perdu, voué à la perdition. فَالسُنَّةَ مَنْ تَمَسَّكَ بِهَا وَجَدَّ فِي التَّمَسُّكِ بِهَا وَلَمْ يَرْضَ بَدِيلًا عَنْهَا فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى الْحَقِّ الْمُسْتَبِينَ. Donc, la sunna, celui qui s'y attache fermement et qui reste attaché et il n'agrée aucune autre voie, aucun autre chemin que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là, il restera sur la vérité claire. Car la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité. L'islam, c'est la vérité. La guidée, elle est dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme a dit Allah tabaraka wa ta'ala, « فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ » Et qu'y a-t-il après la vérité, si ce n'est l'égarement? وَيَنَالُ سَعَادَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ Et il gagnera le bonheur d'ici-bas et dans l'au-delà. وَعَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ مَنْ اتَّبَعَ الْهَوَى وَحَكَّمَ الرَّأْيَ الْمَذْمُومِ فَإِنَّهُ يَهْلِكَ Et contrairement à cela, celui qui suivra sa passion et qui prendra comme arbitre juge sa mauvaise opinion, son mauvais raisonnement, alors il sera perdu. لِأَنَّهُ يَزِيرُ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ Car il a dévié du droit chemin. وَفِي هَذَا إِذَنْ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسُوغُ لِلْمُسْلِمِ أن يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي. Et là aussi, il y a une grande remarque qui est faite, que celui qui n'est pas permis aux musulmans de contrer, de contredire la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'opinion ou le raisonnement. Mon opinion, elle dit autre chose. Ton opinion n'a pas lieu d'être. Lorsqu'il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'est demandé de te soumettre et de te plier. Comme Allah a dit dans le Coran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Et il n'était pas permis à un croyant, ni à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils viennent à décider d'eux-mêmes. Et celui qui désobéit à Allah et au messager ne fait que s'égarer d'un égarement évident. وَالسُنَّةِ وَسَطِ لَا إِفْرَاطَ فِيهَا وَلَا تَفْرِيطَ. Et la sunnah, la tradition du prophète, c'est le juste milieu. On ne vient pas voir quelqu'un qui applique la sunnah, on dit non, mais il faut être dans le juste milieu. C'est le juste milieu. Loin des deux extrêmes. Ni exagération, excès, et ni relâchement, laxisme. La tradition du prophète, la sunnah, c'est le juste milieu, c'est la droiture.
والسنه وسط لا افراط فيها ولا تفريط وسط بعيد عن الغلو والجفاء وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
Et d'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah les agrée, radiyallahu anhuma, qui dit, nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une assemblée, une assise, et il a tracé un trait au milieu, puis il a tracé deux traits à la droite de celui-ci et deux traits à la gauche de celui-ci, puis il a mis son doigt sur le trait qui était au milieu, le trait droit au milieu, et il a récité, il a dit voilà le chemin d'Allah, la voie d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Puis il a récité ce verset dans le sens du verset. Et voilà, voici mon chemin droit dans toute sa rectitude. Suivez-le et ne suivez pas les autres chemins qui vous feront dévier du droit chemin. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que ces petits chemins qui sont à la droite et à la gauche, les chemins déviants, à la tête de chacun de ces chemins s'y trouve un démon qui y appelle. Donc ne vous fiez pas par tout cet embellissement, ces fleurs, ces beaux habits, vêtements qui seront portés et mis sur le chemin de l'égarement. Au final, c'est un diable qu'il y a. On vous l'embellit. Jamais la déviance, l'égarement, le mal, on vous le présente comme il est. On vous le présente avec un bel emballage, attirant. Et beaucoup de gens ne voient pas. C'est pour cela qu'il faut se renseigner. Demander aux gens de science. Sinon, vous allez suivre. Et qui sait si vous allez revenir ou pas. Donc, le mal toujours habillé. Et Allah tabaraka wa ta'ala a interdit aux juifs d'agir ainsi. Lorsqu'il leur a dit, « وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » Et n'habillez pas le faux par la vérité, tout en connaissant la vérité, alors que vous le savez. Donc, c'est une des manières, des ruses de Satan, pour faire dévier les gens, c'est de leur présenter le mal, mais avec un beau vêtement. C'est ce qu'on appelle l'embellissement. Hein? Ou alors, des belles paroles, les beaux parleurs. Hein? Ils parlent. Et les gens, combien sont attirés par les beaux parleurs? Ils parlent bien. Ils mémorisent des poèmes et de la poésie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin, derrière, c'est un égarement. C'est un égarement qui vous attend. Donc non. Regardez. Est-ce que c'est en conformité ou pas? Est-ce que c'est dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? La balance, c'est le Coran et la Sunna. Ya ayyuhal ladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul, wa uli l'amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in, farudduhu ila Allah wa Rasul, in kuntum tu'minuna billahi, wal yawm al-akhir, ذلك خير واحسن تاويلا. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et aux messagers, et obéissez aux détenteurs du commandement parmi vous, les savants et les gouvernants. Et si vous divergez sur une chose, une question, quoi que ce soit, alors retournez-le à Allah et à son messager, et aux messagers, à Allah, à son livre, au messager, à sa personne de son vivant, alayhi salatu wassalam, et à sa sunnah après sa mort, alayhi salatu wassalam. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier, ceci est bien meilleur et de meilleure interprétation.
Hadda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-ummah ala at-tamassuk bis-sunnah. Le prophète sallam a encouragé, a enjoint sa communauté de s'attacher fermement à sa tradition. Wal bayan bi annaha hiya al-wasat wa hiya tariq an-najah. Et il a bien clarifié quelle est cette tradition, cette voie, ce chemin du prophète alayhi salatu wa salam, le juste milieu. Et quel est le chemin de la survie? Wa anna ma 'ada as-sunnah min al-muhdathat wal bid'ah hiya subul ash-shaytan. Et aussi il a bien clarifié que tout ce qui est en dehors de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les nouveautés et les innovations, ne sont que des voies sataniques, les voies de shaytan, du diable, de Satan. وليست هي سبيل الله, et elle n'est pas, elle ne fait pas partie de la voie divine, de la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. فاذا الحديث تضمن بالاضافه الى الحض على السنه الحذر من البدعه. Donc dans ce hadith, il comporte pas seulement l'attachement, le suivi à la sunna, mais en plus de cela il comporte la mise en garde contre l'innovation. Wa annaha muhlika, et qu'elle est destructrice. Wa in ra'aha an-nasu hasana, même si les gens à leurs yeux elle apparaît bien et bonne. Là n'est pas la finalité. Ce n'est pas toi qui décides de mais pour moi elle est bien, je vois pas il ou le mal. Non. Elle est en contradiction. C'est une innovation, elle est mauvaise, elle est destructrice et elle mène vers l'égarement qui mène dans le feu de l'enfer. Et le prophète sallam a dit tout, toute innovation dans la religion est un égarement. Il n'y a pas de bonne innovation, rien. Le prophète a fermé la porte. Toute innovation est un égarement et tout égarement mène dans le feu de l'enfer. Et comme l'a dit Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Toute innovation est un égarement, même si les gens la voient bien. Et comme a dit Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fala ta'abbaduha. Toute adoration qui n'a pas été pratiqué par les compagnons du messager d'Allah, ne la pratiquez pas. وفي ذلك دليل على أنه ليس من البدعة ما هو حسن. Il y a aussi une preuve là-dedans que dans le domaine de la bid'a, il n'y a rien de bon. Toutes les bid'a sont mauvaises. Toutes les bid'a sont mauvaises. Les gens, wallahi, dans l'égarement, ils atteignent des fois des degrés. Ça fait peur. Ça fait peur. Lorsque un, il ose, il a le culot de dire clairement, et c'est arrivé, on fait des adorations, on est convaincu que le prophète ne les a jamais fait. Mais ce sont des bonnes innovations. Ou quelqu'un qui dit, je suis convaincu que le prophète et les compagnons n'ont jamais fait telle chose, mais moi je la fais. Il n'y a plus de discussion arrivé à ce stade-là. Ça ne sert à rien, tu ne peux rien pour cette personne. Il y a des personnes, ils ne veulent pas lâcher. Et pourquoi tu ne veux pas lâcher? Ce n'est pas toi qui guides. C'est Allah qui guide qui il veut et il égare qui il veut. Toi, si tu peux transmettre à ton stade, transmets. La personne n'a pas voulu, continue ton chemin. Tu risques de t'égarer avec lui. À force de parler, de polémiquer, tu risques de tomber dans le piège toi aussi. Subhanallah. Et qui dit que lui n'a pas eu le même parcours que toi? Et puis lui-ci, il a fait la même chose et il est tombé. Et tu tomberas. On est faible. L'innovation, elle rentre facilement en nous. Mais pour qu'elle nous quitte, c'est une autre question. Les gens ont des ambiguïtés. Pendant longtemps, ils n'arrivent pas à les enlever. Même s'ils font croire qu'ils ne les ont plus, elles sont encore quelque part dans leur esprit. Et à tout moment, elles peuvent apparaître. Wallahu al-musta'an. Les imams de l'islam, les ulama, ils se bouchent les oreilles. Ils évitent d'écouter les ambiguïtés et les égarements. Et une simple personne, hein, elle se croit tout permis. Et elle se croit capable de pouvoir. Et c'est là où elle rentre dans la perdition. Une personne qui va dans des sites pour discuter avec les tekfir, les khawarij, en pensant les faire revenir, à la fin, cette personne, au final, en arrive à dire quoi? Abdullah ibn Abbas est devenu mécréant. A'udhu billah. Allahu Akbar. Vous imaginez? Donc, toujours demander à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver, de nous raffermir, de nous garder sur le droit chemin. Celui qui est mort sur le droit chemin, il a fini sa vie. Le vivant, on ne sait pas. Comme il a été dit, من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Celui qui veut suivre, qu'il suive celui qui est mort, qui est parti sur le droit chemin. Car le vivant n'est pas à l'abri d'une quelconque fitna, d'un quelconque trouble ou discorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam implore son Seigneur de ne jamais le laisser revenir à sa propre personne ou de s'en remettre à sa propre personne ou d'avoir confiance totale en sa propre personne. Non, Allah tabaraka wa ta'ala, même pas le moment du clignement de l'œil. Ce laps de temps qui est même pas une seconde, même pas ce moment-là. Ya hayyu, ya qayyum, bi rahmatika astaghith. Aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn. La takilni ila nafsi tarfata 'ayn. C'est le dua du prophète alayhi salatu wa salam. Et comme disait Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, صاحب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل في معنى كلامه au sens de ses paroles, il dit celui qui cherche la vérité, une preuve lui suffit, mais celui qui suit la passion, mille preuves ne lui suffisent pas. Subhanallah. وأن البدع كلها ضلالات. Et que les innovations sont toutes des égarements. Hadha hukmu nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le jugement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les innovations. Il a déjà statué là-dessus. Kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Toute nouveauté en religion est une innovation et toute innovation est un égarement. Wa in kanat تختلف في حكمها. Même si les innovations ne sont pas tous au même stade. C'est de l'égarement. Elles sont destructrices. Mais dans les innovations, il y en a qui sont pires que d'autres. Il y en a qui font sortir de l'islam. D'autres qui ne font pas sortir de l'islam. Mais c'est tous de l'égarement et elles sont destructrices. لَكِنَّهَا كُلُّهَا مُجْتَمِعَةٌ فِي الضَّلَالَةِ. Mais elles sont toutes réunies dans l'égarement. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.